Quand Abraham et Isaac sont montés sur le mont Moria pour faire le sacrifice, normalement d'Isaac, Isaac a demandé à son père, « Je vois le bois, je vois le feu, parce qu'ils emportaient du feu avec eux, c'était pas l'époque où on avait des briquets en poche, hein. Mais je ne vois pas où est l'holocauste, je ne vois pas où est l'animal que l'on doit sacrifier. » Et Abraham a répondu, mais ça, c'est Dieu qui y pourvoira. Et quand Abraham est allé jusqu'au bout du renoncement paternel, qui est l'image du renoncement, de la kénose du Christ, du renoncement du Christ qui se fait homme et qui occulte aux yeux des hommes sa divinité pour être homme comme tous les hommes. Et quand Abraham donc ne va pas jusqu'à sacrifier son fils, mais l'épargne à la demande de Dieu, c'est parce qu'il doit y avoir un transfert. Ce n'est plus l'homme qui va mourir, ou s'il meurt, ça va être, c'est provisoire, mais c'est un animal qui doit être sacrifié à sa place, celui qu'on appelle l'holocauste, le sacrifice complet, c'est-à-dire de l'animal qui est complètement consumé, complètement offert à Dieu et dont on ne garde rien, alors que d'autres sacrifices, certains morceaux sont réservés pour les officiants. Et je parle pour l'Ancien Testament. Chose que l'on garde d'ailleurs dans notre Nouveau Testament, puisque maintenant ce qu'on appelle l'agneau qui est prélevé pour la consécration au moment de la proscomidie, on garde un morceau dont on a tiré les parcelles pour la commémoration des morts et des vivants, et ce morceau-là est consommé par le diacre s'il y en a ou par le prêtre s'il n'y a pas de diacre, qui ça représente les morceaux justement des sacrifices la part qui revenait aux prêtres et aux lévites. Bref, donc Isaac demandait, mais je vois le bois du sacrifice, je vois le feu du sacrifice, mais où est l'agneau? Et Abraham lui répond, Abraham, il savait qui était l'agneau. Normalement, c'était, pas l'agneau, le sacrifice. Normalement, c'était prévu que ce soit son fils. Et il dit, Dieu y pourvoira. Il voulait pas trop dire à son fils à l'avance ce qu'il attendait. Et effectivement, Dieu y a pourvu, puisque quand il a empêché Abraham d'accomplir ce sacrifice jusqu'au bout, à ce moment-là, un bélier s'était pris par les extrémités, comprenez les cornes si vous voulez, mais dans la Bible il est écrit par les extrémités, il était pris par les extrémités dans un buisson, donc dans du bois. Et au lieu de sacrifier son fils, Abraham a sacrifié le bélier pris par les extrémités. Vous voyez que c'était une prophétie, puisque tout homme, à la suite du péché originel, tout homme est mortel, tout homme va mourir, ou est déjà mort. Mais le Verbe de Dieu, la parole divine incarnée, s'est substitué à l'homme, il est mort à la place de l'homme, et il a été pris lui aussi sur un bois, non plus dans un buisson, encore qu'il ait eu une couronne buissonneuse, une couronne d'épines, mais il a été pendu lui aussi par les extrémités sur le bois de la croix. C'était le sacrifice d'Isaac était ainsi la figure, la prophétie, la figure du sacrifice du Christ. Et c'est un des cas, et ils sont multiples dans l'Ancien Testament, c'est un des cas où les sacrifices, les holocaustes, prophétisaient, signifiaient le sacrifice par excellence qui devait arriver avec le Christ. Et c'est pour ça que le Christ, on l'appelle l'Holocauste, celui qui est complètement sacrifié, donc celui qui vient achever comme une personne avec en personne divine et unie à une nature, à sa nature humaine, qui est venu se sacrifier à la place des hommes et qui en quelque sorte résume, englobe et transfigure tous les sacrifices de l'Ancien Testament. Que ce soit ce bélier-là, que ce soit le sacrifice offert par Noé après qu'il soit descendu de l'arche, que ce soit les béliers offerts en holocauste dans le temple plus tardivement, que ce soit le veau offert par Abraham et Sarah lorsqu'ils ont eu la visite de cet mystérieux ange qui était là à la fois un et multiple, donc image de la figure de la Trinité. Tous ces sacrifices-là sont transfigurés et englobés, perfectionnés par le sacrifice du Christ. Et c'est pour cela que dans les textes aujourd'hui, et je ne vous les cite pas tous, d'abord parce que je ne les ai pas tous en tête, le Christ est constamment comparé à un animal sacrifié. Et quand vous attendez comme le Isaac, que vous dites, mais où est le veau gras? Où est le bélier du sacrifice? Le veau gras, vous l'avez consommé. Veau gras ou bélier, c'est-à-dire l'holocauste, vous l'avez consommé. L'holocauste, c'est manifesté essentiellement, si je puis dire, dans l'Ancien Testament, au moment où les Hébreux ont quitté la terre d'esclavage, la terre d'Égypte sur laquelle ils étaient esclaves, pour gagner leur liberté avant de passer par les eaux de la mer Rouge qui s'est desséchée pour aller 40 ans dans le désert puis arriver en terre promise. Un holocauste avait été offert par famille avec le sang qui avait été pris pour badigeonner les linteaux des maisons des Hébreux sous en forme de croix, ce qui était une manière de les protéger en quelque sorte de la mort qui allait frapper tous les premiers-nés des Égyptiens et des païens, si vous voulez. Figure évidemment encore du Christ qui, par la croix, nous sauve aussi de la mort. Et donc cet holocauste-là, c'est celui-là qui est fêté essentiellement dans la Pâque juive, dans la Pâque de l'Ancien Testament. Et pour les Juifs encore aujourd'hui, la fête de Pâques, c'était il y a 3 ou 4 jours, je crois, peut-être un tout petit peu plus, mais c'était ces jours-ci en tout cas. Pour la Pâque juive, c'est toujours la commémoration du passage de la mer Rouge avec l'offrande de l'agneau pascal. Nous n'avons pas d'agneau pascal, tout du moins notre agneau pascal, ce n'est pas un animal à quatre pattes que l'on sacrifie tous les ans, c'est celui qui récapitule tous ces sacrifices de l'Ancien Testament et qui est le véritable agneau pascal, avec un A majuscule, si vous voulez, qui est le Christ, qui s'est laissé immoler sur la croix pour la rémission de nos péchés et pour nous communiquer sa vie, la vie éternelle. Quand nous communions au corps et au sang du Christ, communier au sang du Christ, c'est communier à sa vie. Par son corps, nous communions à sa nature divine, humaine, et par là, nature divine, puisqu'il n'est pas séparable. Et en communiant au sang du Christ, nous communions à sa vie. Ça, il a pris notre vie sur lui, il a vécu notre drame en s'incarnant, de manière à ce que nous vivions, nous aussi, avec lui et en communion avec lui, sa propre vie. Et toutes nos vies ne sont qu'une, en lui. Et c'est pour cela, c'est en vertu de cela que notre communion eucharistique, l'amour qui nous unit normalement à tous les hommes, même et surtout à nos ennemis, cet effort de conversion, cet effort de communion les uns avec les autres, avec la grâce de Dieu, nous amène à dépasser nos individualismes, si vous voulez, nos séparations, pour ne faire qu'un seul corps dont nous sommes des membres différents, les membres du corps du Christ. En étant membres du corps du Christ, nous sommes aussi membres divins. Nous ne sommes pas Dieu par nature, mais nous sommes rendus Dieu par la grâce. Comme Dieu n'était pas homme par nature, mais il a acquis la nature humaine pour la partager avec nous. Ceci, pour ceux qui visitent quelquefois la nouvelle église, hein, quoi, est indiqué même dans l'architecture sacrée, mais ce qu'on trouve aussi dans tous nos rites et dans toutes nos prières. C'est de cette manière-là que l'on acquiert véritablement la vie éternelle. La vie éternelle, comme le Christ l'a dit, on l'a dit dans certains évangiles de cette semaine, la vie éternelle, c'est que nous soyons un avec le Christ, que nous soyons un les uns avec les autres en Christ. Et il y a une... Je reviendrai peut-être sur ce sujet-là, sur ce point-là. Il y a dans ce mystère de la vie de communion avec le Christ, donc aussi avec le Père et le Saint-Esprit, il y a le mystère se vit, s'expérimente à plusieurs niveaux. Bien sûr, nous allons mourir. C'est pas une grande nouvelle que je vous annonce. Vous le savez tous, même si quand nous sommes jeunes, nous n'en prenons pas toujours conscience, mais en prenant un peu d'âge, on s'aperçoit que ça se rapproche. Et donc, on va tous mourir, mais aussi on va tous ressusciter. Tous, on va revivre. La résurrection des corps est un mystère. On ne sait pas trop comment ça se passe. Et ce n'est pas simplement la résurrection de l'âme. Ce n'est pas simplement la maintenance d'un certain niveau de notre être qu'on appellerait par exemple l'amour. C'est vraiment la résurrection de notre être tout entier, même si c'est pas une revivification où on va s'alimenter, se serrer la main ou s'embrasser pour se manifester son amour. Il va y avoir une communion les uns et les autres tout en étant distincts en tant que personnes mais unis dans une même nature. Donc, effectivement, la résurrection, elle nous est déjà accordée, et tous, sans exception, pardon, que nous soyons bons ou mauvais, que nous soyons croyants ou incroyants, tous nous ressusciterons. C'est ce que nous célébrons aujourd'hui. Et cette résurrection, donc cette accession à la vie éternelle, ceux qui auront choisi Dieu d'une certaine manière, je dis bien d'une certaine manière, ceux-là vivront leur vie éternelle d'une manière heureuse, et ceux qui auront rejeté volontairement et consciemment Dieu, ceux-là vivront leur vie éternelle dans la peine et dans la douleur, parce qu'ils ne pourront pas échapper à cette union. Mais il y a encore un autre niveau de résurrection que l'on peut expérimenter de notre vivant même, et qui est une participation, une par anticipation, par avance, une participation à cette résurrection générale que je viens d'évoquer brièvement. C'est la résurrection de notre conversion. Qui d'entre nous peut se dire non pécheur? Qui n'a pas l'expérience, à part les inconscients, qui n'a pas l'expérience de notre condition d'éloignement de Dieu et des fautes plus ou moins graves aux yeux des hommes que nous commettons chaque jour ou exceptionnellement? Et ces fautes, nos fautes, à tous, sont souvent l'occasion de découragement, d'abandon, de peine, de tristesse, et finalement d'oubli de Dieu et, comme on a toujours tendance à justifier, éventuellement d'un rejet même de Dieu par notre propre faute, à l'image de Judas par exemple. Mais la résurrection qui nous est accordée déjà et dont on peut faire l'expérience, c'est de faire fi, je vais m'expliquer, de faire fi de notre péché, c'est-à-dire de laisser notre péché derrière nous-mêmes et de ne pas être obnubilé, de ne pas être aveuglé par la gravité de nos fautes, quelles qu'elles soient, même celle de Judas qui a été à l'origine de la mort de son Seigneur et d'une autre, donc de Dieu lui-même. Devant cette perception de notre péché, qu'il est une grâce de pouvoir ressentir cruellement, parce que c'est à ce moment-là qu'on peut s'en remettre en totale foi en Dieu, en sa miséricorde. C'est alors que l'on accède, à travers notamment les sacrements, à travers la prière, à travers toute notre forme d'ascèse, quelle qu'elle soit, qu'on peut accéder au pardon de Dieu, à la réunification, à la reprise de communication avec le Dieu que nous avons renié, consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement, mais de fait. Et cette reprise de cette revivification de la vie spirituelle en nous-mêmes par le repentir, par le demande de pardon, ça c'est une expérience quotidienne ou quelquefois exceptionnelle dans des moments plus cruciaux de notre vie, c'est une expérience de la résurrection. Mais toujours, ça nécessite une démarche de conversion de notre part qui n'est qu'une réponse à la démarche du Père miséricordieux qui vient vers nous pour nous tirer des enfers dans lesquels nous sommes, pour nous faire accéder, si nous acceptons d'être pris par lui, de nous faire accéder de nouveau dans le royaume des cieux alors que nous sommes déjà sur terre. La conversion dont je parle, c'est-à-dire la reprise de communion avec notre Seigneur, ne nous fait pas oublier notre condition pécheresse, ne nous fait pas oublier quelles sont les passions qui animent nos cœurs, ou quelles sont les fautes que nous avons commises. On ne les oublie pas, mais notre confiance en Dieu, qui est miséricordieux envers tout homme, est supérieure à cela. Et la résurrection dont je vous parle n'est pas un mystère que l'on acquiert, mais c'est un mystère auquel on participe par la bonté de Dieu, à condition d'y adhérer aussi par la foi. Et vous qui avez vécu le carême autant que faire se peut, vous avez eu sous les yeux des grandes conversions, celle de Sainte Marie l'Égyptienne, qui précisément se sentait exclue de la résurrection quand elle était dans l'église de la résurrection à Jérusalem, dans laquelle elle ne pouvait pas pénétrer à cause de ses péchés de prostitution. Et c'est quand elle s'est retournée vers le Christ qu'immédiatement elle a été pardonnée, et à ce moment-là, elle a consacré sa vie à Dieu, non seulement pour lui demander le pardon, mais autant qu'elle avait ressenti la sécheresse de celle qui se savait loin de Dieu, autant elle avait goûté cette sécheresse, autant elle a voulu goûter les délices de la communion avec Dieu, et c'est pour cela qu'elle est partie dans le désert. Un dimanche avant, on nous a présenté Saint Jean Climac, qui nous a montré, dans son livre, dans son testament, nous a montré quel chemin, comment on peut parvenir, comment on peut croître dans la vie spirituelle et dans la conversion. Mais vous avez une multitude d'autres saints dans l'histoire de l'Église. Lisez le Synaxaire, vous en aurez tous les jours, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, de gens qui ont commis des crimes. Je pense à Moïse l'Éthiopien, qui lui, dans le désert, à chaque fois qu'il voyait une femme enceinte, il l'étripait pour voir ce qu'elle avait dans le ventre. Avouez que c'est quand même pas l'idéal de la morale. Eh bien, quand Moïse s'est rendu compte de, quand la grâce l'a touché, il s'est rendu compte des crimes qu'il commettait, et plutôt que de se décourager, il s'est immédiatement tourné vers Dieu, a retrouvé la communion avec Dieu, et s'est consacré à lui. À la mesure de son péché correspondait la mesure de son repentir. Pas simplement pour faire le sacrifice de sa vie, mais pour sentir par la foi, de sentir cette communion avec Dieu enfin retrouvée grâce au repentir qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est suscité par Dieu. Pour vous encourager pour que vous sentiez que la résurrection dont nous célébrons la solennité cette nuit et toute la journée et toute la semaine d'ailleurs, que ceci n'est pas seulement le souvenir d'une hypothétique résurrection de quelqu'un qu'on appelle le Fils de Dieu. Je ne m'en moque pas, je le crois tout à fait. Mais que cette résurrection, c'est vraiment notre histoire à nous et notre histoire d'aujourd'hui, pas simplement ce qui nous attend plus tard, mais c'est ce à quoi nous sommes appelés à tous les jours. Et c'est pour cela qu'avec Saint Jean Chrysostome, avec l'Église, avec tout ce que vous avez chanté toute la nuit et déjà les jours précédents, je peux vous dire, soyez vraiment dans la joie, soyez vraiment dans la paix, tous, sans aucune exception, soyez dans la joie, car ce salut que je viens de vous évoquer, à défaut de le décrire, ce salut est accordé à toute personne de bonne volonté, toute personne qui décide de rompre avec son péché, même s'il n'y arrive pas complètement et radicalement. Tout le monde ne s'appelle pas Marie l'Égyptienne, hélas. Mais ceci peut vous apporter la joie. Donc, soyez rayonnants dès aujourd'hui et n'attendez pas demain ou après-demain. Le temps presse. C'est aujourd'hui qu'il faut être heureux. C'est pas demain. Et si vous l'êtes aujourd'hui, si vous êtes dans la paix aujourd'hui, si vous avez la grâce de Dieu aujourd'hui, vous l'aurez aussi demain et après-demain. Et quoi qu'il arrive, vous connaîtrez déjà sur terre les prémices, certes, simplement le début de la béatitude éternelle qui ne cessera de croître tout au long de votre vie et au-delà de votre mort, jusqu'à toute l'éternité en une croissance perpétuelle. Donc soyez joyeux, bonne résurrection à tous et priez pour moi. Christ est ressuscité.
Il est vraiment ressuscité.